Radio Spirale.
Paroles souterraines, dans le cadre des rencontres du CRILC. Causerie avec Alice Michaud-Lapointe, auteur de Titre de transport. Animée par Martine-Emmanuelle Lapointe. Alice Michaud-Lapointe est l'auteur de Titre de transport, publié chez Héliotrope. Recueil de 21 histoires qui dressent un portrait bigarré de la métropole montréalaise et de son métro. Titre de transport a été finaliste au 14e Grand Prix littéraire Archambault. Alice Michaud-Lapointe a contribué à des blogs littéraires et culturels et fait partie du comité de rédaction du magazine Spirale, ainsi que son comité web. Elle a par ailleurs signé plusieurs articles dans la rubrique Cinéma du magazine. Elle poursuit aujourd'hui un doctorat en études cinématographiques à l'Université de Montréal.
Alors, bienvenue. C'est avec un réel enthousiasme que nous inaugurons ce soir le cycle 2015-2016 des rencontres d'écrivains du CRILC et de la librairie Olivieri. Cette année, nous avons choisi de vous présenter les textes de fiction et la poésie de quatre jeunes auteurs. Vous aurez noté la prononciation bien appuyée du « e » à la fin du mot « auteur », qui ont publié récemment leurs premières œuvres. Vous l'aurez donc compris, ce cycle sera consacré aux nouvelles écritures des femmes et tendra ainsi à vous faire découvrir des textes et des voix encore plus connues et commentées. Ce soir, j'aurai le plaisir de discuter avec Alice Michaud-Lapointe, donc de discuter de son recueil de nouvelles titres de transport, paru en 2014 chez Héliotrope. Alors, je vais vous la présenter. Alice a complété à l'Université de Montréal, aussi en 2014, un excellent mémoire de maîtrise en recherche-création intitulé « Vues imprenables », suivi de « Paradoxes du voir et de l'aveuglement » dans « Ceux d'à côté » de Laurent Mauvignier. Elle a contribué à des blogs littéraires et culturels et fait partie du comité de rédaction du magazine Spirale, ainsi que de son comité web. Elle a par ailleurs signé plusieurs articles dans la rubrique « Cinéma » du magazine. Elle poursuit un doctorat en études cinématographiques à l'Université de Montréal et prépare la publication de son deuxième ouvrage chez Héliotrope. La rencontre de ce soir porte le titre « Paroles souterraines » au pluriel, ce qui décrit fort adéquatement les univers parallèles que nous donne à lire Alice Michaud-Lapointe dans les 21 nouvelles de titres de transport. Dédiées à différentes stations de métro, à différentes stations du réseau de métro montréalais, les nouvelles se présentent comme autant de points de vue, singuliers, souvent décalés, parfois volontairement clichés et conformistes, sur la ville, mais plus encore sur ce qu'elle cache dans ses recoins sombres, ses allées et ses places désertées, ses foules compactes. Ces paroles souterraines sont de prime abord au sens topographique du terme, mais elles le sont aussi de manière figurée, puisqu'elles renvoient au tropisme quasi insaisissable qui anime les consciences des différents personnages, à leurs secrets, inavoués ou non, à leurs démissions ordinaires. La force de ce recueil réside bien sûr dans la grande maîtrise de l'écriture qui s'y déploie, nous y reviendrons, mais aussi et surtout dans la manière dont l'auteur a su faire d'espace public et partagé les lieux où s'exposent, dans une sorte de chorégraphie improbable, les intimités de ceux que l'on appelle, dans le jargon du monde des transports, les usagers. Dans Titre de transport, le métro est donc ce lieu où la frontière entre le privé et le public est poreuse, constamment franchie, en dépit de l'indifférence mutuelle des passagers et du rythme souvent affolant qui gouverne leurs allées et venues. Dans ses nouvelles, Alice Michaud-Lapointe s'est attachée au moment subtil et éphémère où se produit le franchissement entre le public et le privé. Alors, je vais commencer avec une question bien prosaïque. Pourrais-tu nous raconter la genèse de ton recueil de nouvelles? Comment l'as-tu pensé, préparé, mijoté? Combien y a-t-il eu de trajets de métro, de promenades dans les différents quartiers montréalais que tu dépeins?
Donc, en fait, la première fois que je me suis dit que j'avais envie d'écrire quelque chose sur le métro, c'est écrit à la fin du bac en scénarisation à l'UQAM, et tout de suite, j'ai su que ça ne marcherait pas. Et je me souviens, pendant que j'étais un peu « Ah, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vais à la maîtrise? Je n'ai plus de plan, là, rien ne marche. » Et là, pendant que les profs expliquaient le plan de cours, je me suis dit « Ah, mais je voulais écrire, c'est vrai, je vais faire ça. » Et là, pendant qu'ils devaient penser que je tripais sur le plan de cours, parce que là, j'étais comme « Ah, en train d'écrire! » Puis là, j'étais en train de créer la structure de ce qui allait être titre de transport pendant ces cours que je n'ai jamais suivis finalement à l'UQAM. Et après ça, j'ai donc écrit pendant 2-3 mois, de façon très scolaire. Justement, je retournais à l'Université de Montréal, puis tout le monde était comme « T'étais pas censée être partie! » Puis j'étais comme « Non, finalement, j'écris! » Et là, c'est ça, j'ai écrit la moitié environ du livre avant la grève. Et c'est ça. Après, il y a eu la grève, qui est un autre moment très différent pour l'écriture parce qu'on était très impliqués. Et puis, c'était pas les vacances pendant la grève non plus. On allait beaucoup dans les assemblées. Et puis, on dirait que comme là, les plus grosses nouvelles, c'est qu'ils m'ont demandé plus de temps. Je les ai écrits pendant cette longue période-là pour finalement terminer en novembre environ, c'est ça, 21 nouvelles. Je pense peut-être que j'en avais 20 à ce moment-là, 20, 21. Et puis, c'est ça. Puis après, ça a été soumis à Eliotrop.
Est-ce que tu as utilisé le plan du métro?
Je l'ai regardé. J'avoue, j'ai commencé avec les nouvelles où je me disais, ah, ça, je sais que je vais écrire ça à cette station-ci. Les premières nouvelles que j'ai écrites, c'était celles qui comme, me sont venues instinctivement. Il y en avait peut-être 5-6 que là, j'étais certaine, comme, ah, cette station, c'est sûr que je vais parler de ça. Puis après, c'est ça. Là, une fois, on dirait la deuxième partie après janvier, là, c'était, ah, je suis plus certaine du tout de où je vais parce que là, j'en avais 5-6, mais ça ne faisait pas du tout un recueil encore. Et c'est ça, je me suis dit, OK, là, je vais aller me promener un peu. Puis je voulais comme aussi, oui, j'ai regardé la cartographie quand même parce que j'étais comme, je veux pas juste rester dans le centre de Montréal, je veux pas comme créer un recueil comme ça. Donc, j'étais comme, oh, Grignon, qu'est-ce que je pourrais faire? Mais là, je me disais, ah, je connais quand même, j'ai pas habité là, je connais pas nécessairement ces quartiers. Donc, je me suis laissé la liberté aussi de comme partir du métro, mais quand même de parler de la ville. Donc, ça pouvait être un point de départ, ça pouvait être une finition, ça pouvait être juste un passage, une idée. Donc, le métro était aussi des fois... Il n'est pas présent quand même dans toutes les nouvelles, on le sent, mais il n'est pas toujours important non plus.
C'est vrai que ça peut être un prétexte parfois.
Oui, vraiment. Des fois, c'était complètement un prétexte. Des fois, même, j'ai changé de station. J'étais comme, ah, oh, j'en ai pas une dans cette ligne-là, je vais y aller. Ça pouvait fonctionner aussi. Je sais, ouais.
Donc, ma deuxième question va être un peu moins prosaïque et va aller un peu dans le sens de mon introduction générale. Donc, ton recueil de nouvelles est nettement polyphonique, il multiplie les instances narratives. Donc, il y a plusieurs nouvelles qui sont écrites au « je », au « tu », au « il ». Il y a aussi des nouvelles qui sont entièrement dialoguées, sans aucune intervention là, narratoriale. Donc, on pourrait dire que « Titre de transport » explore le vivre ensemble, les différents lieux, les différents rituels de la communauté. Mais il me semble que ton écriture va jouer doublement de ce rapport à la communauté. Tu explores évidemment les lieux topographiques, les lieux physiques, les lieux qui sont partagés par les membres de la communauté de ton recueil. Ces lieux que, je vais faire une référence érudite, là, que Marco G a qualifié à tort, me semble-t-il, de non-lieu. Mais tu revisites aussi, à travers ton écriture, à travers les thèmes qui s'y déploient, les lieux communs, la topique de notre époque. Donc, dès la première nouvelle de ton recueil, Longueuil, Université de Sherbrooke, tu t'amuses avec les stéréotypes, avec les clichés qui sont rattachés respectivement à la métropole, mais aussi à ses banlieues. Hein. Oui. Les filles dans le métro de Longueuil sont, je cite, « un peu dirt ». Elles portent quelque chose qui vient du Sirens ou du Urban Planet, du quartier 10-30. Les gars, quant à eux, sont des douchebags qui portent des calottes Lucky 7. Donc, comment est-ce que tu as travaillé, comment est-ce que tu as pensé le recours à ces lieux communs dans ton recueil?
Oui. Bien, déjà, le recueil, à la base, ne commençait pas du tout avec cette nouvelle-là. C'est avec Olga qu'on a eu l'idée de commencer avec un dialogue parce qu'on trouvait justement que quelle meilleure manière de commencer un recueil que par le mouvement, par déjà une traversée, qu'on est déjà pris dans quelque chose qui a déjà débuté. Et c'est ça, cette nouvelle-là est drôle. Et dans le fond, c'est ça, le recueil est comme une boucle un peu parce qu'elle commence par une nouvelle où il y a beaucoup de jugement, justement, et comme c'est le jugement de la ville vers la banlieue. Et elle termine par le contraire qu'une fille de Saint-Jérôme juge complètement une fille de Montréal. Donc, c'est ça, la boucle est un peu bouclée. Et puis, travailler sur le cliché et le lieu commun, c'était très important pour moi parce que, je sais pas, je pense que je vois le cliché de façon photographique. Dans le fond, c'est quand même, ça reste une représentation, comme pas tant justement dans le sens péjoratif du terme, mais je pense qu'on peut créer comme vraiment à partir du cliché, comme le retourner, en faire quelque chose de nouveau. Et justement, par exemple, dans cette nouvelle-là, finalement, c'est les filles de Montréal qui ont l'air un peu connes. Et,
Que douchebag.
Ouais, mais justement, on sent que la parole dans cette nouvelle-là, des filles qui comme trouvent ça... a aucun poids sur les fameux douchebags qui sont représentés parce qu'elles n'ont pas de pouvoir, disons, dans ce monde-là qu'elles ne comprennent pas et qu'elles ne sont pas intéressées à comprendre non plus. Donc, oui, c'était une petite pique envers Montréal, une petite pique aussi envers la banlieue, une petite pique contre tout le monde. Mais dans d'autres nouvelles aussi, c'était important pour moi de travailler sur le cliché, comme par exemple pour Préfontaine, qui est la nouvelle qui se passe à Hochelaga. Moi, je n'ai pas grandi là. Et je veux dire, Hochelaga est un quartier qui change beaucoup en ce moment. Et puis, je ne voulais pas non plus parler des nouveaux bobos d'Hochelaga. C'est sûr que l'homme, pour moi, d'Hochelaga restait dans la conception un peu peut-être vieillotte qu'on en a. Mais c'est ça, j'ai essayé comme de magnifier, on dirait, le cliché, de le rendre tellement gros qu'il devenait quelque chose d'autre, qu'il devenait... et même cette nouvelle-là finit un peu de façon fantastique. Mm-hmm. Donc, C'est ça, je voulais rendre le cliché plus grand que nature dans certaines nouvelles. Dans certaines, c'était juste de le retourner, par exemple, dans Villa Maria. On s'attend à ce que ça soit peut-être des garçons qui se bataillent, puis là, c'est des filles. Et puis, des fois, c'était aussi simple que ça, ou par rapport à la nouvelle des Squeegee. Je voulais que ça soit beau. C'était sûr que je voulais pas faire un portrait de Squeegee qui était péjoratif, où on les voyait comme on les voit tout le temps. Donc, c'était des fois de juste changer une perception qu'on avait vue trop souvent déjà. Mais je sais pas si ça a marché pour toutes les nouvelles, parce que c'est dur de travailler avec le cliché, justement, sans tomber dedans complètement. Mais c'est ça, en gros.
Puis le travail sur le lieu commun, il se manifeste aussi dans les différentes traces écrites là, qui peuplent les murs, les souterrains de la ville, les informations, par exemple, qui défilent sur les écrans du métro, dans vos biens, par exemple. Il y a aussi, bon, c'est pas un cliché, là, mais c'est, comment dire, une trace écrite. Il y a ce poème « Tango de Montréal » de Gérald Godin que tu utilises vraiment de manière touchante dans la Nouvelle Mont-Royal. Il y a aussi la mise en garde là, qui est épinglée à la réception d'un hôtel dans l'Assomption. Bon, j'en passe, mais comment est-ce que ces paroles, ces discours qui tapissent la ville ont-ils aussi travaillé ton écriture implicitement? Comment aussi est-ce que ça a pu informer ta conception de la communauté, enfin de celle qui se dessine dans le type de transport?
Oui, c'était très important pour moi aussi qu'il y ait Paul, parce que je veux dire, c'est des nouvelles, souvent, la plupart sont au jeu quand même. Et puis, amener justement la ville qui parle déjà, d'une certaine façon, ça me permettait une certaine objectivité. Comme, c'est difficile d'écrire sur une ville parce que tout le monde, j'avais l'impression en l'écrivant, peut-être que j'avais tort, que j'avais une conception de Montréal qui était peut-être complètement erronée. Ou qu'on avait tout le monde a un avis sur Montréal, on habite ici, donc non, ça, ce quartier, t'as pas raison ou quoi que ce soit. Et on dirait que m'ancrer justement dans des on peut peut-être appeler ça même des est-ce que ça pourrait être des lieux de mémoire comme Pierre Nora dit pour certaines choses, je sais pas, mais qui pourrait c'est ça qui ancre la ville de certaines façons et qu'on connaît tous aussi. Je voulais que les gens reconnaissent Montréal par des choses qu'on avait tous vues, comme justement ce algorithme pharma, vous sentez-vous déprimé, vous sentez-vous qu'on voit mille fois, là, comme soudainement tu te sens super déprimé et terrible quand tu relis ça, mais on les a vues mille fois ces annonces-là, ou justement le poème de Godin qu'on voit même plus tellement on l'a vu, et puis qui est tellement beau, et donc c'était un ancrage poétique quand même que je voulais dans ce recueil-là, pour ça, pour comme, aussi comme une voix plus grande, comme que la ville pouvait parler à mes personnages, et qu'il y ait une espèce de discours, comme de réponse entre la ville et les personnages, d'une certaine façon. Donc, c'était ça pour ça.
Ce qui semble de manière vraiment manifeste dans plusieurs des nouvelles.
Oui, quand même.
Ce dialogue.
Oui, c'est claqué quasiment des fois aussi.
Oui, on a vraiment l'impression que la ville a une voix ou des voix.
Oui, c'est ce que je voulais.
Je te demanderais peut-être de lire un extrait.
Déjà,
de ton,
OK.
Ben oui.
OK. Ben, j'espère que ça va pas vous trop... Je vais la lire au complet. J'ai lu souvent Place d'Armes, et là, ça me tentait pas. Donc, je vais lire Square Victoria Oasi, parce que c'est un personnage que j'aime bien. Et puis, il est vraiment tanné du métro, donc voilà. À la question « Et toi, Francis, tu veux faire quoi quand tu seras grand? » Je n'ai jamais rien répondu. C'était bon pour les autres de crier « astronaute, pompier, joueur de hockey ». Moi, je ne pensais pas à ces choses-là, je ne savais pas, alors j'essayais d'inventer n'importe quoi, de trouver rapidement un métier qui ferait l'envie des autres enfants, mais rien ne me venait. Une fois, la maîtresse avait attendu quelques instants, puis, voyant qu'elle n'obtiendrait aucune réponse de ma part, elle était passée à quelqu'un d'autre. À la fin de la période, elle était venue me voir et m'avait demandé pourquoi je n'avais rien dit. Je n'avais pas envie d'être toréador, pâtissier ou bien vétérinaire. Je l'avais regardée, puis j'avais baissé la tête, lui disant que ce n'était pas grave, que je rêverais mieux plus tard. Mais ça s'était empiré avec les années, parce que plus tu grandis et plus les gens ressentent le besoin de te poser cette question dès qu'ils te voient, comme si toi, tu réfléchissais vraiment à ces choses-là, comme si tu te demandais jour et nuit « mais qu'est-ce que je veux faire de ma vie ?» J'en avais aucune idée, j'en avais jamais eu aucune, ni à la maternelle, ni à l'école secondaire, ni même à l'université. J'avais beau avoir passé des tests de personnalité, avoir rencontré des orienteurs très compétents, avoir participé à des salons de carrière, ça ne changeait pas. Cette quête était vaine, il ne fallait pas s'acharner sur mon cas. Le pire, c'est que souvent, tu les connais à peine, ces personnes qui viennent te parler. Tu les as vues une fois dans ta vie et elles se donnent le droit de te demander « Alors, Francis, tu comptes faire quoi après ça? » Comme si c'était intéressant à tenir comme conversation et que tu avais envie de leur résumer en une minute tous tes doutes, tes espoirs, tes craintes, le vide qui enveloppe toutes tes décisions. On pense souvent qu'on se réveillera un jour et que tout sera différent. Plus la même lumière, plus les mêmes valeurs, plus les mêmes envies, qu'il n'y aura plus d'hésitation à avoir parce que c'est clair maintenant, on a appris de nos erreurs. Sauf que malheureusement, on découvre que ça ne fonctionne plus comme ça. À un moment donné, plus personne n'est là pour t'écrire des bravos dans ton bulletin, coller des autocollants dans tes examens ou te féliciter quand tu trouves la bonne réponse au tableau. Un jour, tu réalises que la vie, ça n'a rien à voir avec ce que tu as fait jusqu'ici. A, B, C, D, toutes ces réponses, aucune de ces réponses, et que tous ceux qui disent vrai devraient dire faux, et que tu ne sauras jamais si tu as tort ou raison, si tout le mal que tu te donnes en vaut la peine, si le plus tard dont on te parle depuis toujours est enfin arrivé. Alors j'ai fait comme tout le monde et j'ai copié sur mon voisin. J'ai avancé dans la même direction que les autres, à tâtons, en me retournant souvent pour vérifier que je n'étais pas tout seul. C'est normal que je me retrouve ici maintenant, à 5h15 dans le métro, baignant dans la masse, avec des gens qui me ressemblent, qui portent des vêtements semblables aux miens, des complets Ralph Lauren, des chemises Tommy Hilfiger, des chaussures Steve Madden. C'est rassurant. Et peut-être que lorsque les gens posent leurs yeux sur mes habits impeccablement repassés et mes souliers en cuir, ils se disent que je suis une personne influente, un businessman important, un homme avec de la classe. Mais je ne sais pas et je n'ai jamais su. J'ai réussi à les imiter parfaitement, à m'habituer à leurs happy hours, scotch and soda, dry martini, tequila bang bang, regard furtif sous les jupes et dans les décolletés, montre Armani Exchange, haute toilette attitude, gel fixation forte 3 dimensions Schwarzkopf, sourire parfait post-appareil dentaire, Invisalign, Great White Strips, à parler, présentation, contrat, date de tombée, agenda annuel, promotion, synergie, déficit financier, soutien des consommateurs, import-export, investissement des entreprises, marché immobilier, somme naturelle, taux d'intérêt, à m'inquiéter de tout et de rien, le prix de l'or, le prix du pétrole, la crise de la dette publique, l'instabilité politico-budgétaire américaine, le cours des actions et des indices internationaux et tout ce qui est relié de près ou de loin à cette maudite bourse mondiale qui accapare ma vie depuis 7 ans déjà, cette ombre qui plane au-dessus de nos têtes, anonyme, et dont on finit toujours par discuter puisque c'est la seule chose qui nous unit, un tant soit peu, nous, les jeunes cadres dynamiques. Je sais que je ne pourrai pas endurer tout ça encore très longtemps, qu'un matin, je me réveillerai et que ce sera fini. Qu'un jour, je ne pourrai plus supporter le poids de tous ces choix que j'ai faits sans conviction. Mes jambes ne bougeront pas. Je resterai clouée au lit pendant des heures. Le téléphone sonnera plusieurs coups, mais je ne répondrai pas. Je regarderai le plafond de ma chambre sans dire un mot et sourirai en pensant qu'au moins, je n'aurai plus à prendre le métro. À sentir tous ces corps se resserrer sur le mien à l'heure de pointe, l'immobiliser. Je n'aurai plus à jouer sur mon téléphone sans réussir à atteindre une des rampes en hauteur. À m'excuser lorsque je manque de tomber sur des passagers assis. À m'armer de patience lors d'un des innombrables arrêts momentanés sur la ligne orange. Je ne serai plus obligée de respirer toutes ces odeurs flottantes alors qu'elles se mêlent les unes aux autres. Transpiration, poussière, haleine de shishtaouk, dent in ice, manteau humide qui sent le renfermé ou la cigarette. Je n'aurai plus à subir ce lieu qui, d'un panneau publicitaire à l'autre, nous demande d'acheter la carte « Je me pointe », des grands balais, un abonnement à la Tohu, un forfait de téléphonie chez Kudo, Telus, Fido. Ce lieu où tout est fait pour convaincre de donner son sang, comme le font déjà Kent Nagano ou Julie Snyder. Ce lieu où l'on demande avec insistance de lutter contre la pauvreté, le sida, le cancer du sein, la maladie d'Alzheimer, de donner à toutes les associations, la SPCA, Emma Québec, la fondation du Dr Julien. Ce lieu où est entretenu le mirage de pouvoir régler tous les problèmes du monde en ouvrant son portefeuille aveuglément et qui, en même temps, nous invite à essayer le nouveau rap au pool park de Subway, à nous procurer une passe saisonnière de ski pour Bromont ou encore une paire de wedges en paille au Yellow. Et puis, il y a les conversations. Ces milliers de conversations inutiles qui s'accumulent dans ma tête jour après jour. Par exemple, cette femme à quelques centimètres de moi. En ce moment, elle parle à une autre femme, une amie peut-être, de la recette de courge spaghetti de Ricardo et lui explique pourquoi cette recette est meilleure que celle qu'elle avait trouvée 2 ans plus tôt dans l'édition de mars du coup de pouce. Parce que dans celle-ci, il y a moins d'oignons et plus de petites tomates. 2 tas, c'est bien important. Par contre, elle met juste un petit peu plus de basilic que ce qu'il recommande dans la recette. Parce qu'elle aime donc ben ça, le basilic, ça rajoute une petite fraîcheur, le fun. Et que ce plat-là, c'est super bon en automne avec « si je m'écoutais, je lui casserais la mâchoire ». Je n'ai jamais cassé la mâchoire de personne, mais je pense que ça me soulagerait. Mon poing briserait ses 2 rangées de dents, elle s'effondrerait par terre, se tiendrait la bouche à 2 mains, le sang se mettrait à couler entre ses phalanges et les passagers autour de nous seraient sans doute pétrifiés. Ils n'auraient jamais pensé qu'un homme comme moi, à première vue sain d'esprit, était capable d'une telle violence. Quelqu'un tirerait vigoureusement la poignée de secours et tous seraient pour longtemps incapables d'oublier le son horrible que ça fait, une mâchoire qui se brise, ce craquement sourd, pire que de la porcelaine sur le plancher. J'aurais ce petit air cinglé à la Patrick Bateman. Il y aurait des taches de sang pas coagulées partout sur mon complet, des dents que personne n'oserait ramasser par terre, des souffles coupés et beaucoup de silence. Oui, si j'osais, ça me ferait tellement de bien. Peut-être qu'ils échangeaient des signes de main discrets ou des regards furtifs pendant que j'étais dans la lune, que je fantasmais à l'idée de casser la figure de cette pauvre femme. Ça s'est passé si vite. Je n'ai rien vu venir. En l'espace d'une seconde, le cours des choses avait changé. Il fallait réagir. Je me suis vue courir comme un fou furieux sur le quai du Square Victoria, les tripes dans la trachée, à essayer de rattraper ces 2 garçons qui avaient décidé aujourd'hui que j'avais une tête à me faire voler. Mais je n'ai pas bougé. Les portes du métro se sont refermées sur mon visage impassible et j'ai regardé les jeunes hommes détalés avec le iPad de la compagnie. N'importe qui d'autre aurait écouté ces réflexes, se serait extirpé du wagon au bon moment, les aurait poursuivis parce que c'était la chose à faire en pareil cas, qu'il ne fallait pas se soumettre, que c'est normal de bondir lorsqu'on est victime d'une telle injustice. Je ne ressentais rien. Un peu de surprise, certes, mais rien de plus. Une seconde, c'est si vite passé, en plus. Durant les minutes qui ont suivi, plusieurs personnes m'ont demandé si j'allais bien, pourquoi je n'avais pas couru derrière les voleurs, si j'allais porter plainte. Je les ai regardés un à un, puis j'ai souri longuement pour leur répondre que franchement, je n'avais absolument, mais absolument aucune idée. Voilà.
Voilà, pour ce qu'on a. On entend très bien, en tout cas, dans cette nouvelle, le travail sur le cliché là, que tu réussis, oui, en quelque sorte, à, bon, le cliché que tu réussis à revisiter, mais aussi à dépasser, à retourner, là, littéralement, puisque c'est un conformiste qui était gris et qui veut juste sortir de son
rôle. C'est ça, le fameux 9 à 5.
Qui voudrait devenir un personnage du charmien. Mais
il pourrait, oui.
Je vais te relancer encore une fois en évoquant, bon, la question du vivre ensemble, c'est peut-être une obsession, finalement, chez moi. La communauté de titres de transport est aussi un corps social qui tolère vraiment mal la déviance, la marginalité, la différence au sens large. Tu as évoqué les squeegees tout à l'heure, mais oui, les squeegees de la nouvelle Berry-UQAM indisposent des autres passagers alors, je cite, qu'ils ne font rien d'illégal, qu'ils ont le droit d'être assis là, d'habiter ce lieu, d'investir cet espace restreint, même si leur corps traîne avec eux l'odeur des poubelles. Il en va de même des personnages déclassés, d'itinérants, qu'on rencontre par exemple dans les nouvelles Atwater, Côte des Neiges. Il y a aussi des obsédés ordinaires, là, comme dans Angrignon. bon, il y a ce fameux conformiste aigri là, dans Square Victoria. Donc, en quoi ces personnages-là sont-ils nécessaires dans l'économie de ton recueil? Peut-être que je vais commencer avec celle-là, puis j'enchaînerai avec les autres.
Ah, ben ces personnages-là, c'est drôle parce que comme dans certaines des critiques qu'on m'a fait, on disait « Ah, oh, c'est tellement négatif ce recueil, on parle juste de problèmes dans Montréal. » Mais je veux dire, ces personnages-là sont primordiaux, j'aurais vu aucun intérêt à écrire un recueil sur Montréal si j'avais parlé de, je sais pas, des bourgeois qui vont bien. Non, mais j'ai essayé aussi, c'est ça, comme les marginaux, disons, sont ceux qui passent à travers les mailles, justement, de la ville, ceux qui sont complètement insaisissables à l'image de Montréal eux-mêmes et puis qui... Ceux qui sont peut-être sans-abri, justement, il aurait juste la ville comme maison, d'une certaine façon. Alors, à qui appartient plus la ville qu'à eux, je sais pas. Et puis, non, c'est ça. Et puis, j'avais une liberté aussi avec ces personnages-là, que tout pouvait arriver. Je trouvais qu'ils étaient déjà tellement comme, intéressants dans leurs différences que je pouvais me donner beaucoup de liberté et justement retourner les clichés qui leur étaient attribués souvent dans certains textes, dans la littérature, je sais pas, en général, mais... Et puis, ça m'intéressait aussi d'aller justement du côté de minorité que je trouvais qu'on avait moins vu. Comme, je pense peut-être à... J'avais lu, comme justement, avant d'écrire le recueil de Monique Proulx, Les horreurs à Montréal. Et justement, il y avait des nouvelles qui s'appelaient Rouge et blanc, Noir et blanc. Puis je voulais vraiment pas créer comme quelque chose qui ressemblerait à ça, qui était autant défini justement comme odd. Je trouve pas que Montréal est une ville où les choses se divisent de cette façon-là. Alors, mais par exemple, mon personnage de Philippine, de Nanny Philippine, ça, c'est quelque chose que moi, personnellement, j'avais pas encore vu dans des livres. Et puis pourtant, c'est... Moi, pendant toute mon adolescence, j'ai vu ces femmes-là, justement, aller comme le matin très, très tôt dans Westmount ou dans Ville-Mont-Royal. Elles prenaient le même bus que moi, puis elles étaient en nombre incroyable. Et puis pourtant, personne n'en parle jamais. Ou alors, je sais pas, le monsieur, je voulais qu'il soit... Tu sais, j'aurais pu faire qu'il soit haïtien, mais je trouvais que c'est ça, comme on reprenait les mêmes types de minorités, donc j'ai essayé de varier un petit peu. Je sais pas si ça a fonctionné, mais c'est ça pour ça. Et puis, comme c'est ça, pareil pour les squeegees, c'est une vraie scène que j'ai vue. Il y a quand même des notes, des éléments comme plus liés à des expériences que j'ai réellement vécues. Et puis, justement, j'avais tellement trouvé que c'était un beau moment du métro. Puis c'est bizarre parce qu'on dirait que depuis que j'ai écrit ce livre-là, je vois plus rien dans le métro. c'est plus aussi intéressant ou peut-être mes yeux sont plus bons. Mais non, c'était, puis c'était tellement une belle scène et puis qui sortait comme complètement de l'ordinaire, mais je pense qu'il y en a comme 1000 comme ça par jour dans le métro. C'est juste qu'on est pas très attentif des fois. Et puis c'est ça aussi, comme laisser la parole à ces personnages là qui ont tellement, je sais pas, qui c'est ça, qui me laissaient une liberté dans l'écriture, parce que c'est sûr que c'était délicat aussi, parce que je pouvais pas faire parler comme des gens que j'avais jamais côtoyé, j'espère que justement pas avoir comment dire, mal représenter justement des minorités ou quoi que ce soit. Mais non, c'est ça. C'est juste de m'approcher justement au plus près de groupes dans la société qui sont souvent poussés, qu'on voit moins. Puis Montréal, justement, est une ville qui pousse au moins trop, par exemple, les itinérants. Je pense à des villes un peu comme Londres ou Amsterdam où tu vois pas ces gens-là dans la ville. Puis moi, je trouve ça perturbant. Je comprends pas à chaque fois, je me dis, mais où est-ce qu'ils sont, s'ils ne sont pas ici? Donc, je pense pas que Montréal est comme... Ça n'aurait pas eu de sens qu'ils ne soient pas présents dans le recueil.
Il y a une scène magnifique, justement, dans cette nouvelle attouateur là, entre la nounou philippine qui est... en fait, c'est une scène de rencontre, là, qui est comme une rencontre muette. Donc, là, je résume très brièvement, mais la nounou était exténuée par son trajet matinal. Elle est en retard, elle se rend donc chez... chez ses employeurs, et en sortant du métro Atwater, elle croise le regard. Peut-être que c'est toi qui devrais lire, en fait.
J'aime beaucoup lire, ça veut dire, par contre.
Ben oui, écoute. Elle croise le regard d'une femme, d'une itinérante autochtone, puis ça donne lieu vraiment à une superbe rencontre. Là.
OK. La femme autochtone ne baisse pas les yeux. Elle soutient le regard de Nella, le défi, obstinément. Ce qu'elle lui raconte sans même ouvrir la bouche, anéantit Nella, lui fait perdre l'équilibre sur le trottoir glacé. Une petite voix dans sa tête l'appelle, si faible, étouffée d'avance, et lui répète comme une supplication « Ne t'en va pas, ne t'en va pas, ne t'en va pas ». Mais Nella doit s'arracher à cette vision qui la suivra toute la journée, qui réapparaîtra quand elle s'y attendra le moins, dans les miroirs qu'elle lavera, les planchers qu'elle astiquera, les silhouettes des bonhommes de neige qu'elle fera avec les enfants. Levant la pousse dans le dos, lui ordonne de se mettre à courir, lui siffle dans l'oreille qu'elle n'a pas fait tout ce chemin, ses efforts et ses sacrifices pour rien, qu'elle, elle fait partie des chanceuses et qu'elle aurait intérêt à s'en souvenir chaque matin, même quand il fait noir, même quand il fait froid, même quand les métros tombent en panne, parce que « There are plenty of nannies in Montreal, Nella, and if you like your job here, you'd better run to keep it. »
C'est une scène aussi très cruelle, terrible.
Oui, quand même. Mais non, c'est ça. Avec cette scène-là, c'était une scène de rencontre, mais aussi, c'est ça, j'aimais l'idée que ces deux femmes-là se voient et justement, nous-mêmes, en tant que lecteurs, ou même moi qui ai écrit les personnages, de ne pas comprendre la non-compréhension et en même temps, ces deux-là se comprennent très bien, puis il y en a une qui est dans une position de chance, entre gros guillemets, et une autre qui n'a rien du tout. Et l'autre, justement, le fait que la femme autochtone la regarde justement de façon très frontale, sans justement défiant son regard, c'était important pour moi pour montrer justement la conscience et comme justement la cruauté de la ville, qui comme « Ah, oh, Montréal, quelle grande ville! Ah, oh, quel beau Canada qui laisse tellement d'opportunités, qui laisse tellement de chances, alors que t'en as juste une, puis si tu la perds, ben tu vas retourner justement où est-ce que t'étais exactement juste avant. » Donc, c'est ça, la cruauté de la ville, puis c'est ça, mêlé avec l'hiver, c'est ça. Puis aussi, j'ai grandi un petit peu plus dans l'ouest de la ville, puis je voyais tout le temps, justement, au métro à Twitter, c'est particulièrement... des familles, des fois même, ou comme des couples autochtones, justement, qui étaient dans la neige, ou qui étaient comme particulièrement dans le soir cabot. Et puis, c'est ça, c'est vraiment comme un lieu où ils sont très présents, et puis pourtant, complètement ignorés encore. Puis ça m'a fait drôle de relire ça, on dirait maintenant que, justement, dans les nouvelles, ça sort beaucoup plus, qu'on en parle plus, et j'espère qu'on en parlera encore plus, mais c'est ça, je préférais y aller du côté de la rencontre difficile, moins que de l'affrontement, puis de la critique sociale très, très moraliste, disons.
Je pense que c'est beaucoup plus évocateur, de toute façon, que tu l'aies présenté de cette manière-là, que cette rencontre soit muette, qu'il n'y ait pas d'échange de paroles, mais que tout passe à travers ce regard-là, qu'elles échangent. Est-ce que tu dirais, bon, c'est vraiment à la mode là, dans la critique littéraire contemporaine que de parler d'éthique de la littérature, mais est-ce que tu dirais qu'il y a une sorte de dimension éthique à ton écriture?
Oui, je pense qu'elle est présente, c'est sûr. Je pense, mais je voulais pas non plus, j'ai pas écrit les ventes en disant, je vais faire une critique sociale de Montréal et je vais dire tout ce qui se passe mal dans la ville, mais au contraire, mais oui, je pense qu'il y a quand même une dimension éthique de... On a dit une ode à la tolérance, des fois, je pense... Pas vraiment, je pense pas, mais... oui, une dimension éthique quand même de juste... Je sais pas. Est-ce que l'éthique, c'est pour de la justice, de rendre justice à des gens qui vivent dans cette ville? Et autant, c'est ça, je voulais comme rendre justice à la ville, à ceux que même je vois, moi je vois pas assez, que je côtoie pas, qui juste existent, qui la rendent vivante. Donc oui, c'est ça de rendre justice, j'imagine.
Ouais. En les représentant déjà.
Oui.
Bon, là, ça, c'est la question évidemment attendue, c'est-à-dire que, bon, là, j'ai évoqué la communauté, le corps social, mais ce qui est aussi, comment dire, très important dans ton recueil, c'est l'attention particulière que tu apportes aux accents, aux intonations, aux mots de la tribu, en somme. Dans tes nouvelles qui sont dominées là, par les passages dialogués, tu vas reproduire, par exemple, la langue des étudiants. C'est le cas dans Longueuil, Université de Sherbrooke, c'est le cas dans Baudry. Tu reproduis aussi l'idiome des adolescents. C'est le cas dans Villa Maria, mais aussi dans Plamondon. Donc, qu'en est-il de ton rapport à l'oralité? Comment est-ce que tu as travaillé ces différentes langues, parce qu'elles sont nombreuses, ces différentes voix.
C'est sûr que c'est une question que j'étais sûre que ça allait la poser. Parce que mais c'est normal, on parle tout le temps de réalité, puis ça revient, et puis même s'il n'y a pas Benoît Melançon qui vient de faire paraître un livre sur
oui.
le niveau baisse, qu'est-ce que
oui,
ça s'appelle?
Oui, c'est ça.
Mais justement, qui est comme, ça s'appelle le niveau baisse, mais c'est au contraire pour comme, glorifier la langue et sa pluralité, et justement montrer qu'elle évolue et détruire les mythes sur cette langue. Mais l'oralité, je pense que, je ne sais pas si c'est drôle, parce qu'on en parle beaucoup, on dirait dès qu'il y a une certaine forme de joie ou comme des langues, on se demande toujours, mais qu'est-ce qu'il y en a de l'oralité, qu'est-ce qui se passe avec la langue? Dès que ça s'est pas, on dirait un récit très... parce que c'est ça, les dialogues, c'est sûr que ça, j'aurais pas pu les écrire sans... inscrire comme qu'est-ce que moi je connais de cette langue-là. Puis c'est ça qui est drôle, c'est que moi je me demandais tout le temps, hein, puis les dialogues c'est sans doute la chose qu'avec Olga on a le plus travaillé, puis même moi j'ai relisé puis j'étais comme « Oh, j'aurais pas écrit ça comme ça aujourd'hui! » La langue est tellement changeante, ma langue est changeante, nos langues sont changeantes à tous les jours, il y a pas deux langues, il y a des langues je crois. Et même, je suis sûre que des adolescents liraient la nouvelle aussi des adolescents, ils diraient « Oh mon Dieu, on parle tellement pas comme ça! » Comme c'est sûr qu'en un mois, en un an, les choses changent tellement rapidement. Et puis c'est ça qui me frappait de voir que même moi, ma langue n'était pas du tout fixée. Que... C'est pour ça que j'étais infinie de travailler les dialogues, parce que j'étais comme « Ah oh non, cette virgule, ah oh, cette intonation, ah oh, ça! » Puis c'était comme un travail de... infini. À un moment donné, je devais fixer, mais la langue ne se fixe pas, donc c'est très difficile. Et pour l'oralité, ben, je pense que ça rend quand même le livre plus vivant comme ça. C'est sûr que ça fait moins « beau », entre guillemets. Il y avait des choses, des fois, je me disais « Ah, oh, c'est pas beau, cette nouvelle est vraiment comme pleine de vulgarité, pleine de sacre et tout, mais on que je parle comme ça, on parle comme ça, et puis je voyais pas l'intérêt de le cacher, surtout si je voulais rendre justice à Montréal, à ce que j'entends, à ce qui est ancré dans, juste quand tu croises des gens dans le métro, à ce qui est comme des passages de voix, justement, que t'entends. Justement, même au début, je voulais, c'était une idée nouvelle, mais je l'ai pas faite, finalement, c'était de juste écouter des bribes de conversation, mais ça aurait été trop, comme, épars, comme nouvelle. Mais c'est ça, d'ancrer vraiment la langue telle qu'elle est à un moment, mais c'est sûr qu'elle change et que ce livre va pas... On lirait dans 10 ans, je pense pas qu'on dirait « on parle encore comme ça ». Puis même, on se nourrit tellement, c'est tellement le fun de créer à partir d'une langue, comme le français surtout, qu'au Québec, on est tellement chanceux d'avoir, en tout cas moi je trouve ça, de l'anglais, le français, le joual, les québécismes, tout ça, c'est pour quelqu'un qui essaie d'écrire, je trouve que c'est tellement riche, on a comme tellement de choix. Je pense pas que je fais beaucoup de franglais nécessairement là-dedans. Parce qu'on dirait que je repensais à cette question-là, à tout le débat qu'il y a eu avec les Deadobies et Christian Rioux, et comme cet été, tout ça. Puis que justement, eux se défendaient en disant on fait de la rébellion dans la langue, tu la comprends peut-être pas, mais nous, c'est comme ça qu'on parle, puis il faut que tu comprennes qu'il y a des langues. Donc, chacun crie la sienne un peu, puis on s'inspire tellement on adopte nous-mêmes des nouvelles expressions en parlant avec nos amis. Tout était comme littéralement du bouche à oreille pour ça. Donc, de l'inscrire, c'était juste ça, d'ancrer mieux Montréal encore dans ce qui était le plus vivant, qui est la langue, je trouve. Ouais.
Peut-être un autre extrait, Outremont.
Si vous n'êtes pas trop tannée, oui.
Ben non, vraiment.
OK. Outremont, par contre, oui, je vais... Ça va vous donner peut-être faim, par contre, mais OK. Outremont, je vais la couper, par contre, parce qu'elle est un peu longue.
Mais ça ne donnera pas faim parce qu'ils ne vont pas au bon restaurant.
C'est vrai, c'est leur problème. OK. Ben, juste pour recontextualiser, donc, si pour ceux qui n'ont pas lu, c'est une femme d'environ 40 ans qui a un blind date avec un homme rencontré sur Internet. Et elle l'attend au métro Outremont. Et il est en retard. Et là, finalement, bon, je vais sauter 2-3 pages. 14 minutes. Si ça dépasse 20, sérieusement, tu t'en vas. Il y a des limites à ce qu'on se moque de toi, quand même. Tu peux bien faire comme si ça ne te dérangeait pas d'attendre que toi, tu es au-dessus de ces trucs-là, la ponctualité, le respect d'autrui, la politesse minimale envers un étranger, mais il faut bien se le dire, ça commence à être désagréable. En plus, c'est pas comme si tu attendais un ami ou quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps, c'est vraiment un parfait inconnu qui s'amuse à te faire perdre ton temps. Qu'est-ce qui te plaisait tant chez lui, de toute façon? Sûrement pas la partie de ta bio qu'il décrivait comme un homme passionné et passionnant qui prend la vie avec humour et amour, qui pratique le romantisme intensément et qui aime faire des marches en forêt, jouer de la guitare sèche, lire un bon livre le dimanche. Mention spéciale pour l'originalité. C'est vrai que lui, au moins, il semble avoir encore toutes ses dents et plus qu'une couronne de cheveux sur la tête. Mais je suis sûre que tu peux trouver mieux. Et si tu trouves pas, c'est pas grave, t'étais très bien toute seule jusqu'ici, tu n'avais pas besoin de... Ah, le voilà. Dans ta tête, ça se passait pas comme ça. Quand tu t'étais imaginé la scène quelques minutes plus tôt, ça ne ressemblait pas à ça. Sa main n'était pas aussi moite, ses doigts ne cherchaient pas aussi maladroitement à s'entremêler au tien, son sourire ne t'évoquait pas autant celui d'un vendeur de voiture. Mon Dieu, il a vraiment la tête d'un vendeur de voiture. C'est terrible. Comment ça se fait que tu n'avais pas remarqué ça en regardant ses photos? Il avait sûrement dû sélectionner les meilleurs. Est-ce que c'est toi ou il ressemble vraiment à quelqu'un que tu connais? Mais qui? Et pourquoi est-ce qu'il tient à prendre ta main comme ça? Ça fait à peine 5 minutes que vous marchez, il pourrait se calmer un peu. Qu'est-ce qu'il dit en ce moment? Bon, c'est brillant. Tu n'as pas écouté le début de son histoire et maintenant tu n'as aucune idée de ce qu'il raconte. Le trafic sur la métropolitaine est pire depuis quoi? Hoche la tête, continue à faire « mm-hmm » jusqu'à ce qu'il ait fini. Si tu es si chanceuse, il ne te demandera pas ton avis sur le sujet. Tout semble décalé en ce moment, un peu comme si vous étiez les acteurs d'un mauvais téléfilm et que tu débitais tes répliques toujours 2 secondes trop tard. Toi qui étais tellement nerveuse il y a quelques minutes, on peut dire que c'est fini. Ce n'est pas une surprise après tout. Tu savais bien que tu n'aurais pas dû t'inscrire sur ce site de rencontre. C'était débile comme idée. C'est bien parce que Myriam t'en avait vanté les mérites et t'avait convaincu que ça fonctionnait pour plusieurs des mères de ses amis et que tout le monde faisait ça maintenant qu'il était temps que tu arrives en ville. Mais tu les as jamais vues, toi, les mères des amis de Myriam? Peut-être que ce sont toutes de pauvres connes qui n'ont rien de mieux à faire que de s'ébaubir devant les prouesses de joueurs de poker professionnels sur Internet qui aiment passer leur fin de semaine à trembler à boire du chocolat chaud Carnation et commencent toutes leurs phrases par « En tout cas, moi, mon homme... » Oh, arrête. Fais un petit effort. C'est pas tous les jours que tu viens dans ce quartier, c'est agréable quand même de marcher ici, les maisons sont belles, les rues sont propres, le temps est bon, le ciel est bleu, comme chantait Isabelle Pierre. Et puis, même s'il est arrivé en retard, laisse une chance. Il te l'a dit que son chiot avait fait pipi sur sa housse de lit. Seigneur, tu n'avais pas réalisé ça tout à l'heure? Il a un chiot, mais pourquoi? C'est vraiment curieux comme idée, pourquoi est-ce qu'un homme de cet âge aurait un... Ah, oui, d'accord. Il a dû la sortir souvent celle-là, pas mal du tout. Dommage que tu détestes autant les chiens. De tous les restaurants d'Outremont. Il fallait absolument qu'il choisisse celui-là. Ça aurait pu être n'importe quel bistrot. Le petit italien, le café souvenir, les enfants terribles. Mais non! Lui, comble de clairvoyance, il a choisi cet endroit. C'est vrai qu'au fond de toi, tu espérais secrètement qu'il t'amène chez le Mac ou au Van Horn. Mais n'importe quoi d'agréable et de relativement charmant aurait fait l'affaire. Comment est-ce qu'il a pu penser que ça, c'était une bonne idée? Comment est-ce que son choix a pu s'arrêter sur ce restaurant en particulier? Peut-être qu'il essaie de prendre la vie avec humour en ce moment et que c'est une blague. Pourtant, il a vraiment pas la tête de gars très de blaguer. Est-ce qu'il trouve que tu n'as pas l'air d'une femme qui sait apprécier à leur juste valeur les frites de polenta, le magret de canard poêlé ou le filet de bar en carpaccio? Quel genre de femme est-ce qu'il te prend exactement? Cette situation est ridicule. Non, à vrai dire, tout est ridicule maintenant. Ton pull en cachemire est ridicule. Tes boucles d'oreilles en quartz sont ridicules. Ton nouveau rouge à lèvres Lancôme est ridicule. C'est sûr qu'il ne pouvait pas savoir à quel genre de rendez-vous tu t'attendais, mais reste que c'est vraiment une idée peu judicieuse. La rôtisserie fusée. Qui veut aller à la rôtisserie fusée lors d'une première rencontre? Personne! Mon Dieu! Peut-être que c'est un nouveau genre de dîner de con. Peut-être qu'il filme tout depuis une petite caméra bien cachée dans sa poche et que demain matin, tu seras la nouvelle vidéo virale sur YouTube. Non. Calme-toi, ma pauvre. Ne lui prête pas de mauvaises intentions trop vite. Peut-être qu'il voulait simplement un endroit tranquille et simple pour votre première sortie. Un endroit où il pourrait se sentir 100% à l'aise et manger des choses qui ne dépayseraient pas trop son palais. Peut-être qu'il est habitué d'aller au Saint-Hubert et que la rôtisserie fusée, il ne connaissait pas. Peut-être qu'il trouvait ça exotique. Et puis sérieusement, peux-tu commencer à te concentrer ne serait-ce qu'un tant soit peu sur ce qu'il dit? Il va finir par se poser des questions. Essaie d'avoir l'air normal, du moins en apparence, s'il te plaît. Je saute un passage. Non, il ne vient pas vraiment de faire ça. Ça se peut pas, il se moque de toi. Comment est-ce qu'il peut penser que c'est normal d'agir ainsi? Il ne sait pas. Si toi, tu as envie de partager le combo côte levée plus cuisse de poulet avec lui... Le plaisir d'aller au restaurant, c'est bien de décider de ce que l'on souhaite manger, de choisir un plat parmi un éventail de possibilités. Ah, oh, parce qu'il se justifie en plus. T'en as tellement des belles. Je me suis dit que ça te ferait plaisir d'en manger aussi. Sourire en coin, léger clin d'œil. OK. OK, c'est assez. Tu aurais dû t'écouter. Il faut toujours s'écouter dans la vie. Pourquoi tu ne l'as pas fait ce soir? Aucune idée. Mais vraiment, tu aurais dû partir alors que tu l'attendais comme une idiote dans le métro. Ça devrait éviter cette humiliation. Allez, c'est comme le vélo. Ces choses-là ne se perdent pas. Tu le faisais quand tu avais 15 ans, tu en es encore capable aujourd'hui. Trouve un prétexte, n'importe quel. Dis que tu te sens pas bien, que tu as laissé un rond allumé sur la cuisinière, fais semblant de recevoir un appel d'urgence. Non, c'est trop évident, il va comprendre tout de suite. Il faut que tu trouves quelque chose de plus subtil. Tu peux lui dire la vérité aussi. Gaëtan, je suis désolée, mais tu es grossier. Ta conversation est limitée. Ton sourire est repoussant. Tu postillonnes dans mon visage depuis une demi-heure. Tes plaisanteries sont douteuses. Les petits carreaux de ta chemise me rendent malade. Tu as pris la peine de m'inviter dans Outremont pour m'emmener dans un endroit où on sert de la poutine au poulet et des bâtonnets de fromage. Bref, je ne m'attendais pas à ce que tu sois comme ça. Tu ne ressembles en rien à ta bio, ton profil, et c'est bien ça le problème avec les sites de rencontres. On se fait des attentes qui ne sont jamais comblées, et puis on se trouve ridicule de s'être intéressé à une page Internet, mais surtout d'avoir cru que Gentleman 231 en était réellement un, d'avoir pensé que le profil 3211056 existait peut-être dans la réalité. Alors, c'est bien dommage, Gaëtan, mais je pense que je vais y aller. Non, mauvais plan. Mieux vaut encore que tu fasses semblant d'aller aux toilettes et que tu sortes par la porte arrière des cuisines. En plus, il fait bon ce soir. Tu n'as pas de manteau, seulement un grand châle que tu n'as pas enlevé. Alors c'est parfait. Il se doutera de rien. Sois rapide, cours vite. Ne laisse pas le temps au cuisinier de te mettre en travers de ton chemin. N'importe quelle porte de sortie sera la bonne. Dès que tu vois un signe exit, tu fonces. Et tant pis pour le reste. Allez, vas-y maintenant. Go! Gaëtan, m'excuse quelques minutes? Je vais faire un petit tour à la salle de bain. Je reviens. Et souviens-toi de ne plus jamais suivre les conseils de Myriam. Voilà.
On a parlé de l'oralité, mais il me semble que ce qui est aussi fort intéressant dans ton travail, c'est l'exploration des voies narratives. On a évoqué aussi là, l'emploi de différents pronoms, oui. Qui vont témoigner aussi un peu de la fragmentation du sujet, de la multiplicité des voix de celui-ci. Puis ces voix, elles sont vraiment loin d'être décoratives, donc je vais te proposer un petit jeu, en fait, qui va nous éloigner de, des analyses purement structuralistes auxquelles on est habitué à l'université. J'espère que ça va permettre de faire entendre encore plus là, la diversité de... des points de vue qu'affiche ton recueil titre de transport, parce que tu as vraiment, on l'entendait là, dans les différents textes que tu as lus, mais tu as réussi à entrelacer là, les tonalités qui étaient chacune porteuses d'affect, de regards distincts, donc l'humoristique, voire l'ironique qui côtoie le tragique, qui finissent même par se confondre parfois. Donc j'aimerais que tu commentes chacune des trois voix associées à différents personnages que, okay. j'ai tiré de ton livre, donc j'essaie d'accord. de choisir des voix assez différentes. Donc la première voix, c'est la fille laissée sur le carreau au métro Mont-Royal. Donc, je vais lire, c'est à mon tour de lire.
Oui, hein?
Je dirais moins bien que toi, c'est sûr. Mais
ben là, non.
Donc, voilà. La fille laissée sur le carreau au métro Mont-Royal. Maintenant, il faut juste que j'attende que le métro ouvre, que je sois patiente, que je lise les mots de Godin dans le froid sans m'arrêter. Peut-être alors que je cesserai de penser à toi, à l'absence de nous, à toutes ces flèches qui me traversent sans cesse et à toute la merde qui s'accumule depuis trop longtemps. La laine du matin, le vieux goût de sperme, mon bassin endolori, tout ça, c'est rien, c'est passager. J'ai espoir que beaucoup de choses disparaîtront. Les grincements, l'attente, la lutte, mes illusions aussi. Bientôt, cette histoire sera derrière nous. On pourra en rire ensemble, se convaincre que ça aura été bien drôle tout ça, de bonne guerre.
Oui. Alors, c'est vrai que ce personnage-là est un peu... Les relations ne vont pas très bien. Dans le titre de transport, on a remarqué qu'il n'y a pas de couple qui a pas de problème. Ou... Ah non, à part le couple de Scoogey, c'est pas vrai. Mais c'est le seul qui va bien. Et justement, celle-là est un peu... C'est la seule où j'insiste autant peut-être sur justement sa peine et sa détresse. Et puis c'est un personnage justement qui n'arrive pas du tout à communiquer, comme moi en ce moment, avec la personne pour qui elle a des sentiments. Et la seule façon qu'elle se sabote complètement, et puis c'est justement la détresse de ne pas pouvoir parler. Et puis je trouvais justement dans cette fin que tu as lue là que la ville prenait le relais. Justement, on a tous des fois marché très tôt à Montréal, vers 5h du matin, où il n'y a personne dans les rues. Et il y avait quelque chose de salvateur, je trouvais, dans cette image-là, que justement les mots de Godin un peu l'enveloppaient, et justement, alors qu'il fait froid, et puis qu'elle se disait, grâce à ça, c'est OK. Comme que, on dirait que surtout le quartier de Montréal est très ancré dans la fête, dans la vie d'un peu débauchée et tout. Et puis, mais rendu le matin, c'est plus drôle du tout. Et puis justement, c'est comme ce retour à la réalité, mais elle est seule sur les rues, puis c'est ce moment que la ville lui donne justement pour se retrouver à travers ces mots-là et d'attente, justement, comme sur le petit kiosque qu'on connaît tous, justement, à côté du métro Mont-Royal, et que, justement, les mots de la ville pouvaient l'aider, justement. Comme, ça, c'était un exemple de dialogue entre la ville et le personnage. Je trouvais que la ville était plus grande qu'elle, plus forte qu'elle, et pouvait là, un peu la sauver comme de son propre auto-sabotage, disons.
Merci. Alors, la deuxième voix, ce serait celle de Gloria Laniel, la femme obèse de la Nouvelle-Préfontaine. Donc, je vais lire un tout petit bout de la nouvelle. Reste que les années s'additionnent et que Gloria trouve chaque nouvelle journée un peu plus difficile que la dernière. Elle a l'impression de s'égarer dans des gestes qu'elle ne comprend plus, de perdre tout ce qu'elle possède, une chose à la fois, ses lunettes, ses jokes de « une fois c'est un gars », son permis de conduire. Elle sait qu'au fond, elle devrait sortir plus souvent, se promener dans le quartier, profiter de toutes ses réductions et aubaines au lieu de les réutiliser à des fins artistiques. Mais son épicerie, elle la fait tout le temps à deux pas de chez elle, au marché de quartier, bière et vin, boucherie, fruiterie, épicerie, livraison gratuite.
Oui, alors Gloria Laniel, pas que je l'avais oublié, mais je pensais que j'avais juste des personnages jeunes, et puis finalement, oui, quand même, elle, c'est une des personnes les plus âgées que j'ai inventées. Et puis, je la fais pas parler parce qu'on dirait que j'aurais pas osé, comme c'est... Cette nouvelle-là, ça se voulait vraiment comme un... J'y allais vraiment à tâtons et vraiment... précautionneusement parce que j'ai beaucoup lu justement sur Hochelaga avant d'écrire là-dessus, j'ai lu beaucoup de nouvelles, même des choses qui avaient été écrites comme dans les années 50 pour justement comprendre un peu ce qui a l'âme de ce quartier-là et faire vivre, je voulais ça. Gloria Laniel pour moi c'est comme tout le Québec ancien, un peu. Comme, tu sais, elle porte en elle comme... est un peu cliché pour ça, justement, mais il y en a tellement des femmes comme elle qui existent. Le cliché existe quand même à travers elle. Et puis, c'est, le rapport au temps est très complexe parce qu'elle est un peu atemporelle aussi. Puis, justement, la fin de la nouvelle fait que... c'est flou un peu, elle se jette dans le fleuve, mais en même temps, non, parce qu'on ne sait pas très bien à quelle époque elle vit quasiment. Et puis, il y a son frère qui est comme un peu son double. Et puis, c'est comme toute la dureté d'un quartier à travers elle aussi, comme tout ce que ces femmes, on dirait, comme je voyais tellement les cordes à linge, c'était très visuel pour moi de créer ce personnage-là qui était obèse et puis qui était comme dépassée même par comment le quartier évoluait sans elle, avec elle, les années qui passent et qui se répètent. Donc, c'est sûr que c'est une vision d'Ashlaga qui est comme très... on la voit parce qu'on l'a déjà vu beaucoup, mais c'est ça, en mettant un petit côté fantastique, comme en rendant Gloria tellement too much, je voulais aller du côté plus fantastique, comme, un peu comme j'ai fait aussi avec... c'est quelle nouvelle? Beaubien, la deuxième, la femme chinoise qui n'a aucun bon sens et qui existait, par contre, mais elle n'était sûrement pas aussi pire que je l'ai décrit. Mais non, c'est ça, de mettre des petits éléments fantastiques, parce que je pense que Montréal est une ville, pas qui peut se permettre ça, mais... ou des choses, on peut toujours être surpris à Montréal quand même, un peu comme à New York ou à des villes où comme tu comprends, des fois tu vois des choses et t'es comme, mais voyons, comment ça peut arriver, comme, et puis comme, que la ville n'est pas du tout prévisible. En tout cas, je ne trouve pas. Je suis toujours surprise en habitant ici.
Puis, troisième et dernière voie, ce serait celle de l'itinérant magicien qui connaît les dessous de la station Côte-des-Neiges. Donc... ouais.
Cette voie-là a été compliquée, en fait, parce que au début...
Voulais-tu que je dise un bout?
Ah, tu peux, oui.
Ben, c'est comme tu
veux. Pourquoi pas? Excuse-moi.
Pour faire entendre. Oui. Ben, c'est comme tu veux. Hein.
Vas-y. Magie.
OK. Allez. Ça part tout seul. Je ne peux pas m'en empêcher. Je me mets à rire. Je ris fort, trop fort. Un grand éclat jusque dans les voûtes impénétrables du plafond. Ha, 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 ha. J'espère que j'ai réussi. Tellement fort que ça leur fait peur à eux, les gens qui rentrent et sortent des wagons. Mais je m'en fous. Ça me fait rire encore plus. Car s'il y a bien quelque chose que j'ai encore le droit de faire, c'est de rire. Je sais qu'ils doivent penser que je suis fou quand ils me voient faire ça, rire à gorge déployée, parler tout seul, pousser la chansonnette, cadet Roussel à trois maisons, et moi, absolument aucune. Oui, vraiment, mais c'est juste qu'ils ne peuvent pas comprendre ce que je vis. Je ne suis pas encore assez bon pour les faire changer de rôle, de peau, de vie avec moi, mais ça viendra. Et d'accord, parfois, les larmes coulent jusque dans les coins de mes lèvres, et là, ma transformation est trop impressionnante.
Oui. Alors, c'est ça, cette... C'était compliqué, cette nouvelle-là, parce que je voulais, c'est mon personnage itinérant que j'ai osé faire parler. Mais finalement, justement, en travaillant avec Olga, on l'a rendu... Il était pas... Au début, il était... Je sais pas. Il était pas assez fou. Fait qu'on a dit, on va le rendre fou. Mais là, finalement, il est pas complètement fou non plus parce qu'il est très conscient de ce qui lui arrive. Il est vraiment dans un état... Il y a beaucoup, quand même, de... Je le vois pas comme quelqu'un qui a nécessairement une maladie mentale ou quoi que ce soit, mais quelqu'un qui dérive tranquillement et qui se voit dériver, mais qui sait pas du tout comment s'en sortir. Et puis, je pense qu'on en croise comme beaucoup plus qu'on pense à tous les jours, des gens comme ça. Mais en même temps, je le vois positif, mais comme tellement dans un... Comme les masques de théâtre, là, comme sourire, tristesse, sourire, tristesse. Comme, je le vois vraiment comme, un peu comme ça, un peu masqué, un peu théâtral. Et puis, qui reste du côté up de la vie, mais qui peut sombrer en deux secondes non plus. Et que c'est justement comme en se voyant comme le maître du métro, le maître de la station Côte-des-Neiges, qu'il arrive à survivre encore. Mais en même temps, justement, dans son discours, c'est toujours un pour un mal. Comme, ah, qu'est-ce que vous voulez, de quoi vous voulez que je vous parle? Un petit attentat à Bangladesh? Moi, j'ai lu les nouvelles aujourd'hui, je sais. Et justement, dans la rapidité de son discours aussi, comme on voit aussi que c'est ça, tous les discours se mêlent. C'est quelqu'un qui a été cultivé, qui a comme une vie, qui n'a pas toujours été comme ça. Puis ça, c'était important pour moi de dire ça, comme qui était consciente d'avoir pas toujours été comme ça. Et c'est ce qu'on oublie à tous les jours, je crois, quand on voit... Je m'inclus autant là-dedans, là, comme de... La banalité du quotidien et le métro, justement, le fait d'aller toujours au même endroit fait qu'on oublie, on regarde plus. Et puis, eux, par contre, lui, ils regardent tout le monde. Et lui, il voit passer tous ces gens-là. Donc, le rapport d'observation et de regard était modifié ici. J'aimais ça que ce soit lui qui les regarde, plutôt. Puis des fois, c'est ça. Comme, le regard, pour moi, c'était un des thèmes les plus prédominants, je crois, du recueil. Je l'ai vraiment pensé comme ça. Puis le regard et le jugement, pas nécessairement négatif tout le temps, mais juste d'observer... Comme les gens s'observent et puis, mais ils ne parlent pas. Donc, c'est ça qui est toujours... d'inventer les vies, on pense toujours à ça, justement, comme c'est quoi la vie de cette personne, qui comme les croisements, les passages. C'est vraiment comme l'espace du métro qui permet toutes ces choses-là, je crois.
Puis c'est une sorte de personnage qui, en effet, regarde les autres, mais qui aussi porte les autres. Oui. Qui dit, passe d'une tonalité à l'autre, un peu comme ton recueil. C'est un peu comme s'il était ventriloque.
Oui, c'est vrai.
Et, Puis j'aurais une dernière grosse question. En fait, te placer en tête de ton recueil une citation de Laurent Mavigné, qui oui. est aussi celui que tu as étudié dans ta maîtrise.
Oui, oui, oui. C'est d'ailleurs ce livre-là que j'ai étudié dans mon essai de maîtrise.
Et il écrit, bon, je vais pas toute la lire, là, la citation, mais il écrit « C'est moi, je me dis que c'est moi en entier, qui pour vivre fait taire tous les autres, parce que moi je suis comme tous, les autres sont, c'est tout. » Donc il y a vraiment cette espèce de ventriloquie là, que j'évoquais auparavant, là, qui ressort également de cette citation qui est placée en exergue, et on le sait, quand on place une citation en exergue, ça veut dire quelque chose, n'est-ce pas?
Non, non, vraiment, c'est un hasard total.
Le paratexte. Donc, tu conjugues, bon, on l'a vu, tu conjugues différentes langues, différents points de vue, différentes voix. Il y a le travail sur l'oralité, mais il y a aussi les horizons référentiels qui cohabitent. Les références populaires et savantes.
Ouais.
Donc, je me demandais, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots de tes filiations intellectuelles, de tes emprunts aux œuvres d'autrui, qu'il s'agisse de celles de Rihanna, de Slipknot, moi, je ne savais pas qui c'était Slipknot, je suis allée googler, ou de Foucault. Donc, oui, non, mais tu n'es pas obligée de parler de Foucault, là, c'est parce que j'ai vu des auteurs qui étaient cités dans ton texte.
Ouais, j'aurais pas dû mettre Foucault. Mais...
T'as mis Badi aussi.
Que j'ai jamais tué. Hein? Mais non, mais c'est justement, elle cite des choses, là. Elle n'a pas lu non plus mon personnage. Mais bref, mais pour commencer avec Laurent Mauvignon, en fait, oui, c'est il m'a beaucoup inspiré autant dans ses thématiques et sa façon de traiter l'humain dans ses livres que son style. Que le premier livre que j'ai lu de lui, c'était Ce que j'appelle oubli, qui est une petite plaquette de 62 pages qui n'est qu'une longue phrase de 62 pages, dans le fond. Un seul souffle, une seule voix. Et moi-même, je ne comprenais même pas comment il arrivait à faire ça. Puis la façon dont il rentre dans l'intériorité des personnages, dont il arrive à se mettre au plus près des pensées de ces gens, justement. Et puis là, ce que j'appelle oubli, ça partait d'un fait divers, d'un vrai fait divers, donc en France, d'un SDF qui s'est fait tabasser à mort par un vigile de Carrefour, du supermarché Carrefour. Et puis, justement, ça m'a beaucoup inspirée pour... La nouvelle de Jean Talon, mais la première version, là, ça y ressemble plus trop. Mais au départ, oui, je me suis dit, mon Dieu, comment est-ce qu'il fait pour parler justement d'un littéraire avec tellement de beauté, tellement d'humanité, justement, mais pas d'une humanité comme bienveillante, un peu gagnant, ou alors rien ne misérabilise jamais, vraiment comme juste sans hiérarchie, juste de façon vraie. Et c'était vraiment un goal à atteindre. Il est là pour moi. Mais c'est ça, c'est pour ça que j'avais été très contente quand même. J'avais un article qui voyait justement des filiations parce que c'est ça. Je l'avais placé haut, disons, dans mon... Mais je me suis inspirée aussi de plein de choses que je disais en même temps. J'écris beaucoup avec la musique. Je pige partout, je prends une phrase, j'arrête, puis là, je suis comme, ah, ce mot-là. J'ouvre un livre, puis là, je vous lis un paragraphe, puis ce mot-là va me faire écrire un paragraphe, moi aussi. C'est vraiment... J'y vais très free for all, comme on dit.
Mais très présente, la musique, là,
oui.
Les chansons. Et franchement, tu brosses large, là.
Oui, c'est ça.
Tu passes d'un univers à l'autre, assez facilement.
Ouais, mais je pense que comme ça, en ancrant la musique, quand même, ça crée déjà toute une atmosphère. C'est comme nos propres référents, comme soudainement sont interpellés, peut-être. Et puis, comme là, je sais pas, ça peut être autant Rihanna pour les petites jeunes qu'elle, la fille dans Mont-Royal, que là, elle est tannée parce que le DJ met « Je t'aime, moi non plus ».
Oui, ouais. Mais non, c'est pendant la...
Ouais, pendant qu'il baisse, oui, elle est comme, oh mon Dieu, c'est cliché, comme justement, elle trouve ça terrible. Puis lui est comme, oh ouais, c'est super cool. Non, mais tu sais, elle est comme, oh, cut the crap, là. Pardon. Et puis, il y a d'autres, ouais, c'est ça, il y a d'autres musiques. Puis pour, oui, je pense que vraiment l'érudition, le vernaculaire et l'érudition, la langue savante et populaire peuvent vraiment cohabiter ensemble. Je pense qu'on est rendu là, mais les gens de mon âge, peut-être, ou que ceux que je lis, on écrit tous beaucoup comme ça. On est tellement habités par plein de références, par n'importe quoi, justement, plein de choses qu'on voit dans la rue, dans le métro, par plein de textes, c'est comme tout devient un gros patchwork. Puis c'est là que la création naît, on dirait, dans le mélange de tout ça. Il n'y a plus, justement, ça de hiérarchie, je pense, entre qu'est-ce qui est savant ou quoi que ce soit, comme que les personnages peuvent lire Badiou comme ils peuvent écouter Rihanna rentrant. Pour moi, c'était plausible qu'il n'y a plus, c'est ça, ce clivage entre les cultures, disons.
Très bien.
Voilà.
Puis dernière question,
oui.
Qu'est-ce que tu nous prépares? Sur quoi est-ce que tu travailles en ce moment?
Voilà. Bon, en fait, c'est ça, j'étais très contente cette année parce que j'ai su que mon prochain livre allait pouvoir paraître à Iotrop aussi et qu'il était à la base mon mémoire de maîtrise. Et qu'est-ce que tu veux savoir?
Est-ce qu'on a une date de publication?
Oui, c'est ça. Donc, normalement, si tout va bien et que... que finalement, Olga ne change pas d'idée et Annie. ça serait donc à l'automne prochain. Et puis, en gros, ça ne se passe plus dans le métro, ça c'est sûr. Mais c'est encore, le lieu est encore très important. Là, c'est dans un hôtel que ça se passe cette fois. Et c'est très The Shining-esque. L'atmosphère est différente. C'est plus dark un petit peu comme livre, je trouve. Mais par contre, c'est encore plus polyphonique. Il y a encore plusieurs voix moins. Par contre, il y a 6 personnages importants. Mais de façon intercalée, il y a une voix qui revient et qui habite l'hôtel un peu, disons. Et il y a encore un travail sur les clichés de l'hôtel, des menus, de cette espèce de gentillesse fausse des hôtels qui finalement pour moi est un lieu très inquiétant avec des longs couloirs et il y a quelque chose de bizarre dans des hôtels, surtout au Québec là, comme c'est tellement, je sais pas, même les gens qui travaillent dans les hôtels sont bizarres, bref. Et puis c'est ça, et puis les grands thèmes disons de ce livre apparaissent pour moi, c'est encore le regard est encore très très important, mais cette fois c'est beaucoup plutôt le non-regard dans le fond, l'aveuglement, c'est toutes les fautes qu'on commet et qui sont invisibles à nos propres yeux, mais qui sont pourtant très graves. Mais dans la banalité du quotidien, et puis, c'est un peu fait en gradation. Il y en a des pires que d'autres, mais ça, on verra comment ça se passe. Et puis, non, c'est ça, The Shining était très présent. Il y a ça, puisque c'est pour moi, l'hôtel, j'ai tellement vu souvent ce film-là, puis il m'a fait tellement peur quand j'étais jeune. Puis comme ça reste tellement marquant pour l'œil, ce film, que je l'ai re-regardé, je m'en suis inspirée un peu. Et puis c'est drôle parce qu'il y a tellement de livres qui ont paru sur The Shining récemment, mais il y a le Ma vie rouge Kubrick, et puis il y avait un autre aux éditions de ta mère, donc là je suis comme, mon Dieu, je suis pas très originale. Mais je pense que c'est différent quand même, il est pas présent, mais comme l'atmosphère est là. Et puis c'est ça, donc si tout va bien, ce sera à l'automne prochain.
Un grand merci Alice.
Merci à toi Martine.
On prendra les questions évidemment de la salle, du public nombreux qui est venu t'entendre.
Donc, des questions gentilles s'il vous plaît.
Si vous avez des questions... Ouais. Poser à Alice.
Allô, oui.
Moi, j'en ai une. Je sais que tu fais des cours de création, tu as ton mémoire en création. Comment l'enseignement de la création à l'université a pu comme contribuer, influencer ou nuire à ton processus créatif en général?
Ça n'a jamais nui. J'ai eu la chance de suivre beaucoup de cours avec Catherine Mavkakis, qui est une prof exceptionnelle. Et avec Jean-Marc Rose aussi. Ça, c'était une autre expérience. Mais j'ai surtout suivi des cours avec Catherine. Et puis, ça, particulièrement le cours écriture dramatique qui m'a été un grand défi pour moi parce que j'avais jamais écrit encore de quoi que ce soit théâtral. Puis c'est là que j'ai développé un peu un amour pour les dialogues parce que je trouvais ça tellement difficile, mais à la fois tellement grisant quand ça fonctionnait, quand je sentais qu'il y avait quelque chose de bon là-dedans. J'ai jamais appris, comme on devait écrire une pièce de théâtre de 30 pages, puis après, j'ai jamais retouché au théâtre parce que je trouve ça très difficile. On dirait que comme écrire des dialogues, ça va, mais après les ancrer dans comme une scène, moi, j'ai comme aucune intelligence scénique, là, je comprends même pas. Mais, ouais, c'est ça. Mais non, là, les cours de création ont grandement aidé, juste comme le fait de pouvoir explorer en toute liberté, de pouvoir toucher à plein de choses, puis comme sans se sentir non plus brimé. Il y a des choses qui marchent pas, il y a des choses qu'on découvre, qu'on savait même pas qu'on était capable de faire. C'est juste d'essayer, puis on n'est pas toujours porté, je pense, à essayer nous-mêmes plein de choses, tu sais... Par exemple, écrire... qu'est-ce qu'on faisait? Par exemple, dans Entendre, voir, écrire, un cours, on devait... Je sais pas, c'était difficile quand même. C'était écrire à partir de Barthes, à partir d'une photo, ou écrire une ekphrasis, ou écrire... qu'est-ce qu'il y avait d'autre? À partir des textes de Cixous. Donc, des textes sont déjà tellement riches, puis là, comme toi, tu te sens tellement petit par rapport à ça, mais ça mène à des choses comme qui sont très grandes et insoupçonnées. Comme, c'est toujours la surprise, justement, de qu'est-ce qui va t'inspirer? Donc, je pense aussi d'être obligé d'écrire comme tu n'as pas le choix dans des cours de création, de toujours produire. Et puis, des fois, tu te dis, mais mon Dieu, l'inspiration, ça ne marche pas comme ça. Mais tu sais, quand tu poses vraiment, ben c'est pas toujours des merveilleux textes à chaque semaine, mais ça t'aide quand même. Ça fait voir tes propres confins, je pense, de possibilités de création. Je pense que c'est ouais. Donc, oui, les cours de création.
Y a-t-il d'autres questions?
Oui, j'ai une question. Tu as parlé.
Oui.
Et tu n'as pas revenu là-dessus ensuite, dans le fait comment ça peut construire tes différentes nouvelles et en quoi l'influence du cinéma, parce qu'on parle de réalité, donc en quoi l'influence de ton attrait du cinéma se concrétise dans ton écriture?
Ah, ben t'as raison, je pense que oui, le cinéma, j'ai toujours senti que le cinéma et la littérature étaient très liés pour moi dans mon écriture. Souvent, les scènes, je les imagine, justement, pas que je vois une caméra nécessairement, mais il y a beaucoup, d'ailleurs, même pour ce recueil, on m'a souvent dit, oh mon Dieu, ça pourrait donner des films où je voyais... En fait, c'est vraiment bizarre, mais c'est Jeannette Bertrand qui m'a dit ça. Parce que j'avais soumis des extraits de ça pour les Nice, auxquels j'ai pas été prise de toute façon. Mais elle m'a dit, je vois tellement des films, et tout, j'étais comme, ben oui, fais les dons, hein. Bref. J'arrête de parler de Jeannette Bertrand. Mais oui, l'influence du cinéma est très, très grande, autant dans les références explicites comme justement dans le prochain... Peut-être même c'est plus présent dans le prochain livre parce qu'à un moment donné, justement, la culture... Comme il y a un de mes personnages qui est complètement habité, comme tout ce qu'elle comprend, c'est... Elle répète des films qu'elle a vus, elle comprend toute la réalité à travers juste le médium télévisuel. Et puis elle est comme, ah, j'ai voulu faire... Elle reproduit une scène d'un film, puis elle est comme, ah, c'était meilleur dans le film que comme... Donc oui, ça m'habite beaucoup. Et puis il y a certaines scènes, oui, que je vois comme des... Pas comme des plans, mais je l'imagine très bien. Et puis je me dis, ça pourrait être éventuellement filmé. Mais ou juste par des jeux, comme... On parlait tantôt du jeu « Tu il ».
Oui.
Et puis justement, comme souvent mes nouvelles au jeu sont plus comme introspection, mais mes nouvelles au il, je les voyais vraiment comme si moi-même j'étais un passager de métro, que j'aurais pu voir la scène arriver devant mes yeux et puis comme de façon un peu omnisciente. Donc encore là, ça pourrait être comme un genre de panoramique cinématographique, mais c'est ça.
Des fois, moi j'avais l'impression qu'il y avait des effets de montage, littéralement, comme si on passait du champ contre champ dans certaines nouvelles.
Ah, ben, merveilleux. On dirait que je pourrais pas penser à laquelle, mais ça, oui, ça se peut que des petites ellipses, hein, ça.
Oui.
Oui. Ah, ben oui. Oui, mon doctorat en ce moment, que je viens de débuter, par contre, c'est sur les enjeux contemporains de la cinéphilie et à l'aune des concepts de spectre et de sublime. Donc, comment est-ce que, justement, on tombe un peu amoureux d'une image au cinéma? Comme, qu'est-ce que, justement, quelle est la part de sublime et de spectral, donc d'évanescence aussi, qui reste là-dedans? Et je comme ça, dans un corpus de films aussi que j'interroge, qui, comme justement, propose, selon moi, des expériences... De cinéphilie comme intrinsèque au film un peu, c'est difficile d'expliquer son sujet de doc, mais qui sont, comment dire, que c'est ça, que les films eux-mêmes sont des expériences cinéphiles, mais des fois de façon explicite, des fois de façon implicite, donc un peu des deux. Donc oui, c'est ça, le cinéma est encore... et puis c'est drôle parce que là, je suis en cinéma, mais je trouve tellement que j'ai une perspective littéraire pour aborder le cinéma, donc les deux sont toujours très, très, très liés, pour le meilleur et pour le pire. Le prochain, c'est un premier roman, je crois, oui. Ouais. Plus un petit roman.
Un peu sur le même thème, on sait qu'il y a des auteurs qui, après un premier grand succès, sèchent un peu dans leur deuxième roman.
Qu'est-ce que tu veux te faire?
Je me demandais si le fait d'utiliser la thèse comme deuxième ouvrage était comme une réponse peut-être à cette angoisse-là.
Ben non, on dirait que comme titre de transport, j'ai jamais pensé, la première chose, c'est tellement rare de publier son premier livre, et puis je pensais vraiment pas que ça fonctionnerait, je me disais je vais essayer, mais vraiment là, comme c'est très correct si ça fonctionne pas. Tandis que le mémoire, c'est vrai que, puis même sur c'était Catherine Avkakis, c'était ma directrice, puis elle me disait, est-ce que tu vas vouloir le publier, puis j'étais comme oui, je pense quand même que... Fait que je l'ai créé dans une perspective quand même de le soumettre, mais il était plus scolaire qu'il est maintenant dans sa première version. Je l'ai retravaillé cet été, c'est ça, pour comme vraiment voir à travers le mémoire quand même le livre. Mais non, j'espère qu'il ne sera pas sec ou qu'il ne sera pas...
La vraie question, c'est, est-ce qu'il y a un troisième livre
qui
est en préparation?
Wow! Hein? S'il te plaît.
Faut qu'elle écrive sa thèse.
Mais oui, j'aimerais ça. En plus, là, justement, on dirait que l'idée que j'ai pour un troisième est très théâtrale, mais j'ai pas envie d'écrire du théâtre, c'est le problème. Je vais à venir, hein, dans un lointain... quand j'aurais plus de cheveux.
Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Oui, Ariane?
Est-ce que quand tu écris, tu as un lecteur ou un lectorat en tête? Tu dirais comme ça, des galeries de lecteurs, tu écris sans lecteur?
Ah, c'est dur d'écrire sans lecteur, hein? Je pense que comme j'ai tellement des gens précieux dans ma vie qui sont, je veux dire, très, très bon, et comme, et j'essaie, on dirait, de me dire, s'ils le lisaient, ce qu'ils aimeraient ça, ce que ça serait, donc, je pense que c'est ça des... Mais en même temps, c'est bien d'écrire aussi sans lecteur, jamais je me suis censurée en me disant, ouh, j'aimerais pas que cette personne lise ça, donc je vais pas écrire ça, donc non, là, c'est sûr que non. Mais en même temps, je suis pas non plus dans la confrontation, ou quoi que ce soit, j'ai changé les noms, disons, quand c'était comme biographique, ben, plus biographique, où j'étais pas dans l'autofiction de ça, à ce point de vue-là. Mais un lecteur, Non, je pense pas que je veux plaire à quiconque, mais je suis mon pire lecteur, là, comme je veux dire. Là, je lisais titre de transport, puis j'étais comme, ah, oh, c'était si bon ce livre-là. Mais comme, je pense qu'on est très dur envers soi-même tout le temps. Et puis, mais c'est sûr que quand mes proches trouvent ça bon, c'est le plus grand. C'est le regard qui fait le plus peur, parce que c'est justement les gens que t'estimes. Après, si une personne de 5 fois me dit que c'était poche, ben, hein, c'est la vie. Elle a pas aimé mes nouvelles de banlieue, c'est pas grave. Mais oui, c'est ça. Donc.
Bon, ben, je pense qu'on va te remercier de nouveau.
Mais merci encore. Merci à tous d'être venus, ça m'a fait très plaisir.
Merci.
Radio Spirale.